Disney, 20 000 lieues sous les mers, avec Mickey et Donald. Le professeur Mickey Mouse-Nax, expert maritime mondialement connu, traversait les quais bondés du port de New York. De grands et élégants voiliers étaient amarrés à côté d'imposants bateaux à vapeur, tandis que les passagers et les membres d'équipage allaient et venaient des quatre coins du monde. Le professeur était suivi par son assistant de confiance, Donald Duck, qui traînait derrière lui, en tenant en équilibre une énorme pile de documents et d'instruments importants. Le professeur était particulièrement enthousiaste ce jour-là, parce qu'ils étaient sur le point d'embarquer pour une grande expédition à bord d'une frégate à l'allure impressionnante appelée la Victory.
Allez, Donald! Notre aventure va commencer!
Lorsque Mickey Mouse-Nax et Donald Duck montèrent à bord de la Victory, ils furent accueillis par le capitaine de la frégate, Pat Peterguttt. Le capitaine leur souhaita la bienvenue à bord et leur annonça qu'ils étaient sur le point de partir à la recherche d'un terrible monstre marin.
La tête au fond du toit! On peut faire ça, on ne va pas faire ça!
Donald a raison. Je ne chasse pas les créatures marines, je les étudie.
Le capitaine Peterguttt raconta aux nouveaux venus que récemment, un monstre mystérieux avait émergé des profondeurs de l'océan. Au cours des dernières semaines, il avait attaqué et coulé près d'une douzaine de navires dans les eaux environnantes. Le capitaine Peterguttt était déterminé à capturer la créature et à réclamer l'énorme récompense offerte. Le professeur Mouse-Nax avait lui aussi entendu ces histoires. En fait, il avait accepté l'invitation du capitaine à se joindre à ce voyage dans le seul but d'essayer d'étudier et de protéger la créature inconnue. Mais le professeur savait déjà qu'avec Peterguttt dans les parages, ce ne serait pas facile. C'est alors qu'un grand marin dégingandé s'approcha et salua les nouveaux passagers. Il tenait un grand filet de pêche.
Hey les amis, je suis Dingoland et je m'occupe de tous les filets de pêche à bord.
Dingo essaya de montrer ses outils aux nouveaux venus, mais ses pieds s'emmêlèrent dans son filet, il trébucha et tomba sur le pont en un tas désordonné.
Je ne pense pas que Monsieur Dingoland ait beaucoup de chance d'attraper le monstre.
Bientôt, le bateau prit le large vers le sud, là où le monstre avait été vu pour la dernière fois. Pendant le voyage, le professeur Mouse-Nax passait ses journées sur le pont, profitant de l'air marin et prenant des notes sur les oiseaux, les dauphins et les autres créatures marines qu'il observait. Donald essayait de l'aider, mais la vie à bord du navire ne lui convenait pas tout à fait. Un jour, alors qu'il se penchait sur la rambarde pour admirer le coucher du soleil, un dauphin bondit et lui projeta de l'eau en plein visage. Pendant ce temps, le professeur remarqua que le capitaine Peterguttt s'impatientait de plus en plus, arpentant le pont et scrutant l'horizon avec sa longue vue. Il n'arrêtait pas de marmonner à propos du monstre et de son impatience à mettre la main sur l'argent de la récompense. Mais le monstre restait introuvable. Pourtant, le professeur Mouse-Nax et ses amis rencontrèrent bien d'autres créatures intéressantes. Un après-midi, un bruit étrange attira leur attention. L'équipage avait attrapé une bande de crabes rouges géants et avait vidé le filet sur le pont. Les crabes, excités, se précipitèrent sur le navire dans toutes les directions. Le professeur s'empara rapidement de son carnet et commença à noter ses observations.
Oh, c'est incroyable de vivre si près de tant de poissons et de tant de vie marine.
Aouh! Je suppose que oui, mais mon oreille aimerait bien qu'il ne soit pas si proche. Aïe!
Cette nuit-là, le professeur Mouse-Nax dormait dans sa cabine. Quand soudain, Donald fit irruption.
Levez-vous, c'est le monstre!
Oh, le monstre! Oh là là!
Le professeur enfila ses vêtements et se précipita sur le pont. le capitaine Peter Gutt était déjà là, bien décidé à capturer la mystérieuse créature. Ce monstre serait sa plus grosse prise. Soudain, tout l'équipage se figea, alors que des bruits étranges semblaient monter de la mer, perçant l'air de la nuit. Le professeur Mahousnax se pencha par-dessus le bastingage et scruta l'épaisse brume qui enveloppait l'eau en contrebas. Il leva sa lanterne et aperçut une énorme nageoire dorsale hérissée de pointes qui émergeait des vagues ténébreuses.
Waouh ! Je n'ai jamais lu qu'une créature marine pouvait avoir un aileron aussi étrange. Cela ne ressemble ni à un requin, ni à une baleine. Que cela peut-il bien être ?
Le capitaine Peter Gutt ordonna à son équipage de se mettre en position. Il voulait arrêter le monstre avant qu'il n'attaque le navire. Il cria à Dingo d'essayer de l'attraper dans ses filets. Mais le professeur Mahousnax s'y opposa.
« Attendez ! Il ne fait que nager ! Nous ne voulons pas risquer de l'effrayer !»
C'est alors qu'une énorme vague déferla sur le pont, trempant le professeur, Donaïl et Dingo. Alors que les amis se secouaient, le navire tout entier fut ébranlé par une chose massive et puissante qui percuta la coque. Le navire se pencha d'un côté, s'inclinant dangereusement vers l'eau.
Accrochez-vous au bastingage !
À ce moment-là, une autre grosse vague s'abattit sur eux. Dingo, le professeur et son assistant furent emportés par-dessus bord et plongés dans la mer écumante. Wow ! Le capitaine Peter Gutt les observa, mais ne fit rien pour les aider. Le professeur Mahousnax, Donaïl et Dingo tentèrent de rejoindre le bateau à la nage, mais le courant était trop fort.
Oh, je ne veux pas être le casse-croûte de minuit d'un monstre!
Alors que les amis flottaient à la surface de l'eau, trois étranges tentacules surgirent soudain à des profondeurs obscures, s'enroulèrent autour d'eux et les entraînèrent sous l'eau. Lorsqu'ils regardèrent vers le bas, le professeur et ses amis eurent du mal à en croire leurs yeux. Ce n'était pas une créature marine qui se dressait devant eux, mais le sous-marin le plus grand et le plus perfectionné qu'ils aient jamais vu. Sa coque était faite de grandes plaques de fer. De longues lignes de rivets couraient de la proue pointue à l'énorme hélice à la poupe. De son sommet s'élevait la grande nageoire hérissée qu'ils avaient perçue depuis leur navire. De son ventre sortaient les étranges tentacules tordus qui les retenaient prisonniers. Et une lumière aveuglante brillait au travers de grands hublots ronds dans sa coque. Le professeur Mahousnax était persuadé qu'il y avait quelqu'un à bord. Puis, l'instant d'après, les tentacules les entraînèrent à l'intérieur du véhicule sous-marin et les déposèrent dans une pièce faiblement éclairée.
Non !
Le professeur Mahousnax, Donaïl et Dingo observèrent l'étrange pièce remplie de machines vrombissantes, de cadrans lumineux et de panneaux surchargés de boutons et de leviers.
Bienvenue à bord du Nautilus. Nous voyageons à 20 000 lieues sous les mers.
La voix provenait d'une grande silhouette ombrageuse qui se tenait au fond de la pièce. Lorsque la forme se déplaça vers la lumière, le professeur Mahousnax et les autres virent qu'il s'agissait en fait d'un capitaine à l'allure sympathique.
Je m'appelle Nemo Trouve-Tout et voici mon sous-marin. J'espère que ces tentacules ne vous ont pas trop serré.
Non, pas vraiment, mais l'atterrissage a été un peu brutal.
Nemo Trouve-Tout était ravi d'avoir des invités à bord. Il avait construit le sous-marin tout seul et avait vécu à son bord depuis des années. Et il n'était pas seulement un incroyable inventeur. Comme le professeur Mahousnax, il aimait toutes les créatures marines, du plus petit plancton à la plus grande baleine. Sa vie était passionnante, mais il leur avoua que voyager sans équipage était fatigant. Il s'endormait souvent, laissant le sous-marin se diriger tout seul.
Je crains d'avoir encore à perfectionner le système de navigation automatique. Il a heurté quelques navires de temps à autre.
Lorsque le professeur Mahousnax entendit cela, il comprit pourquoi le sous-marin avait été pris pour un monstre féroce. Désireux d'être un hôte parfait, Nemo Trouve-Tout décida d'emmener ses nouveaux amis en exploration sous-marine et de leur montrer quelques-uns des trésors qu'il avait découverts au cours de ses voyages. Il leur donna de lourdes combinaisons de plongée, avec des casques en laiton brillant et d'énormes réservoirs d'air sur le dos.
J'ai modifié cela pour que vous puissiez marcher au fond de la mer et respirer comme si vous étiez sur la terre ferme.
Les yeux écarquillés d'admiration, les trois amis suivirent leur hôte dans l'eau bleue profonde et traversèrent une magnifique forêt d'algues qui se balançait doucement dans le courant. Devant eux, sur le fond sablonneux de l'océan, se trouvait une huître géante de couleur violette. À l'intérieur de sa coquille rugueuse se trouvait la perle la plus grosse et la plus brillante qu'ils aient jamais vue. Le professeur Mausnax était encore en train d'admirer la perle lorsque Nemo Trouve-Tout sortit une sorte de sifflet étrange et souffla dedans.
Oh, je n'ai rien entendu. Peut-être que mon casque est trop épais.
Non, c'est parce qu'on n'entend généralement pas ce genre de son sous l'eau. Cependant, il s'agit d'un appel spécial pour une créature marine très rare.
À ce moment-là, un énorme tentacule rouge s'enroula autour de la taille de Donnay.
Un calamar géant!
Lâchez-moi, Parker!
Mais le calamar ne voulait pas lâcher Donnay.
Il faut trouver un moyen de libérer Donnay sans effrayer le calamar.
Ne vous inquiétez pas, il veut juste jouer.
Nemo Trouve-Tout scruta l'océan autour de lui. Il se détacha rapidement du fond de l'océan et glissa jusqu'à un énorme lit de plantes marines.
Ces feuilles d'algues sont exactement ce dont nous avons besoin.
Vous allez les utiliser pour faire un filet ?
En souriant, Nemo Trouve-Tout arracha l'une des feuilles de la plante et nagea jusqu'au calamar. À l'aide de la pointe délicate de la feuille, il commença à chatouiller l'arrière de la tête géante du calamar. La créature agita ses tentacules, mais elle n'eut pas peur. En fait, elle semblait rire à sa façon. Quelques chatouilles plus tard, le calamar laissa tomber Donnay sur le fond sablonneux de la mer et s'éloigna à la nage. Donnay était à nouveau libre. Même si l'atterrissage n'avait pas été aussi doux qu'il l'aurait souhaité. Une heure plus tard, le groupe était de retour à bord du Nautilus, sirotant un thé dans la bibliothèque du sous-marin. Donnay était encore bouleversé par sa rencontre avec le calamar géant, et s'il ne l'avait pas laissé partir, ses tentacules étaient très inconfortables, et le fond de l'océan était certes un endroit agréable à visiter, mais Donnay n'aurait pas voulu y vivre. Dingo était désolé pour son ami, alors il essaya de lui remonter le moral avec des jouets mécaniques que Nemo Trouve-Tout avait inventés.
Regardez-moi ça!
Mais il s'avéra que les jouets robotiques du capitaine, tout comme son sous-marin, étaient très indépendants. Pendant ce temps, Nemo Trouve-Tout avait emmené le professeur Mausnax dans sa cabine.
J'aimerais que vous et vos amis deveniez mon équipage et que vous continuiez à naviguer sur les mers avec moi. Mais je sais que cette vie aquatique n'est pas pour tout le monde.
J'aimerais bien continuer à explorer l'océan, capitaine. Mais je crois que Donnay veut rentrer chez lui. Et je ne peux pas le laisser seul.
Je comprends. Demain, je vous emmènerai tous les deux sur une île que je connais. De là, vous pourrez rentrer chez vous.
Le lendemain, le sous-marin atteignit l'île. Alors que les amis marchaient vers la plage, Dingo surprit tout le monde en révélant qu'il voulait rester sur le Nautilus.
Le capitaine Trouve-Tout est bien plus gentil que le capitaine Peter Gutt et je n'ai pas besoin d'utiliser ces filets ennuyeux ici.
Au même moment, de l'autre côté de la baie, le capitaine Peter Gutt, assis sur le pont de son navire, observait le Nautilus à travers sa longue vue. Depuis la nuit de l'accident, Peter Gutt cherchait partout le mystérieux monstre marin. Lorsqu'il vit le Nautilus faire surface près de l'île, Peter Gutt fut émerveillé par ce fabuleux sous-marin. Il décida qu'il devait s'en emparer. Aux commandes d'un tel navire, il serait le roi de la mer et des fonds marins. Tout le monde à bord du Nautilus fut surpris d'apercevoir la Victory qui se dirigeait vers eux à toute vitesse. Le professeur Mausnax, Dingo et Donnell reconnurent immédiatement la frégate et son capitaine.
Agathe ! Il faut chercher nous !
Vous n'avez même pas essayé de nous sauver, capitaine Peter-Gut !
Mais Peter-Gut ne se préoccupait que d'une chose : récupérer le sous-marin. Inquiet, Nemo Trouve-Tout se tourna vers ses amis.
Si le Nautilus tombe entre de mauvaises mains, le monde entier sera en danger.
Le professeur Mausnax acquiesça. Il connaissait suffisamment le capitaine Peter-Gut pour savoir qu'il ne deviendrait jamais capitaine de l'extraordinaire sous-marin. Mais la Victory approchait rapidement. Soudain, le professeur Mausnax se tourna vers Nemo Trouve-Tout.
Capitaine, votre appel spécial fonctionne-t-il depuis la surface ?
Nemo Trouve-Tout comprit immédiatement le plan du professeur et lui tendit le sifflet.
Non, vous feriez mieux de vous en servir sous l'eau.
Le professeur Mausnax porta le sifflet à ses lèvres, plongea sa tête sous l'eau et souffla. Pendant un long moment, Nemo Trouve-Tout et lui attendirent, observant les vagues à la recherche d'un signe de mouvement. Rien. La Victory était presque sur eux. Enfin, dans une explosion d'écume et de mousse, le calamar géant émergea de la surface de l'eau juste devant la Victory. Le plan avait fonctionné. Le calamar fixa Peter-Gut de son gigantesque œil jaune. Le capitaine fut tellement terrifié qu'il ouvrit la bouche pour crier. Mais aucun son ne sortit.
Oh, je pensais que vous étiez impatient de rencontrer un monstre marin, capitaine.
C'est alors que le calamar géant commença à bouger ses énormes tentacules, essayant d'enserrer la coque de la frégate. Le capitaine Peter-Gut retrouva enfin sa voix et hurla à son équipage de battre en retraite immédiatement. Les marins obéirent rapidement et mirent les voiles, s'éloignant de l'île aussi vite que leur navire put aller. Le capitaine Nemo Trouve-Tout, le professeur Mausnax, Donnell et Dingo poussèrent un soupir de soulagement lorsque la Victory disparut dans le soleil couchant.
Très intelligent, professeur. Vous avez sauvé mon sous-marin.
Avec plaisir, capitaine. Considérez cela comme un cadeau pour m'avoir montré certaines des choses les plus étonnantes que j'ai jamais vues.
Moi aussi. Et j'ai encore plus de chance parce que je vais pouvoir en voir encore plus.
Dingo et Nemo Trouve-Tout montèrent à l'intérieur du sous-marin et refermèrent l'écoutille derrière eux. Le professeur et Donnell leur souhaitèrent bonne chance et regardèrent le Nautilus disparaître sous les vagues en quête de nouvelles aventures.
Bon voyage.
Se séparer d'eux était triste, mais le professeur Mausnax était sûr qu'un jour ils se retrouveraient tous. Un large sourire se dessina sur son visage, car il savait que toutes les précieuses créatures de la mer seraient entre de bonnes mains avec le capitaine du Nautilus pour veiller sur elles. Fin. Vous venez d'écouter Disney 20 000 lieues sous les mers avec Mickey et Donald. Écrit par Théa Orsi, adapté pour l'audio, lu par Philippe Catoire. Copyright 2023 Disney Enterprises Inc. Tout droit réservé. Merci d'avoir écouté.